Slate Podcast.
Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.
Je me souviens d'avoir vu, il y a une quinzaine d'années, une interview de Nolwenn Leroy. C'était l'époque où je regardais Star Academy, on disait la Starac, et elle expliquait que petite, dans la salle de bain, elle avait passé des heures à parler avec sa sœur. Et soudainement, je me rendais compte que je n'étais pas seule à passer un tiers de ma vie entre la baignoire et le lavabo, avec la mienne. Que ces discussions si intimes, sur nos ventres, nos visages, nos futurs, nos angoisses, qui rythmaient le lent brossage de dents, ce n'était pas juste nous. Que cette intimité, cet amour infini, ce lien indéfectible, même après des centaines de disputes, tant de vexations, de désaccords et de morsures à la cuisse, c'était la sororité. Que c'était un lien dans d'autres familles. Et je me suis mise à penser aux enfants uniques. Quand je suis tombée amoureuse d'un garçon qu'il était, je lui ai demandé « Ça t'a manqué, toi, d'avoir des frères et sœurs ?» Mais il ne comprenait même pas la question. Comme on demanderait à quelqu'un qui n'a jamais vu la mer si nager lui manque. Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Média. Et aujourd'hui, voici l'histoire d'Anaïs, au micro de Judith Chétrit.
Mes parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et ils se sont tournés directement vers l'adoption. C'était un geste très naturel pour eux. Ils avaient déjà beaucoup voyagé en Asie. Donc, ils ont fait le choix. Les démarches sont assez longues. Elles peuvent prendre vraiment plusieurs années. Et un jour, on leur a annoncé qu'ils allaient adopter une petite fille coréenne et qu'elle allait arriver à l'âge de 6 mois. Quand je suis arrivée en France, je suis arrivée avec un dossier d'adoption qui racontait l'histoire et pourquoi j'avais été adoptée. Et c'est quelque chose que mes parents ne m'ont jamais caché. Ils m'ont toujours expliqué pourquoi. On a toujours lu l'histoire ensemble. Deux amis s'étaient rencontrés dans la file d'attente d'un film au cinéma. Ils s'étaient rencontrés, étaient tombés amoureux et n'étaient évidemment pas mariés puisqu'ils étaient encore étudiants. Ma mère biologique est tombée enceinte. À cette époque-ci, en Corée, être une femme célibataire, non mariée, avec un enfant étant très compliqué au regard de la société. Elle avait décidé de garder l'enfant et de donner naissance à l'enfant, mais elle ne pouvait pas me garder et assumer le rôle de parent. Le fait d'être fille unique et d'être adoptée peut être un peu difficile puisque, en effet, j'ai une famille où j'ai 3 cousins d'un côté et pas 2 cousins de l'autre. Donc pas une grande famille avec des enfants du même âge que j'aurais pu assimiler comme des frères et sœurs. J'avais aucune autre présence féminine de mon âge à part mes amis proches à l'école. C'est vrai que en étant petite, je pouvais avoir cette sensation d'être seule. Je pouvais me sentir seule. Je ressentais un manque qui était inexplicable et qu'aucun ami pouvait combler. Beaucoup d'enfants ont des amis imaginaires. Mais alors, une amie imaginaire que j'appelais Anne, parce que j'avais pas trop de créativité sur les prénoms, qui aurait sensiblement le même âge, mais c'était pas trop possible. Donc, j'imaginais plutôt une sœur. Elle était tout le temps là. On pouvait être avec des amis, je leur disais « Ah bah, elle est là, attention, elle veut jouer avec nous. » Et elle pouvait être juste à mes côtés en train de marcher, en train de jouer, en train de regarder ce qu'on faisait. C'était une présence réconfortante. Donc après mon baccalauréat en France, j'ai poursuivi mes études d'art. Je me suis orientée vers l'art et j'ai fait une première école à Paris. Puis j'ai décidé de continuer mes études pour apprendre le stylisme à Londres. Je passe plusieurs années à Londres et j'arrive dans ma dernière année de diplôme en décembre, où je m'apprête à rentrer en France pour les vacances de Noël. Et à ce moment-là, je reçois une notification Facebook d'un ami qui a posté un screenshot de ma tête sur une vidéo YouTube, apparemment. Je re-regarde, je rentre chez moi, je re-regarde qu'est-ce que c'est que cette vidéo de quelqu'un qui poste des choses sur moi où je ne suis absolument pas au courant sur YouTube. Et évidemment, je m'aperçois que ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui me ressemble très, 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 très fortement. C'est une vidéo américaine, un sketch réalisé par qui met en scène Kev Jumba. Kev Jumba étant le Norman, on va dire le Norman fait des vidéos californien. Et dans cette vidéo, qui s'appelle High School Virgin, il raconte une histoire avec cette jeune fille donc, qui me ressemble comme deux gouttes d'eau, ou à qui je ressemble comme deux gouttes d'eau, qui est américaine, et je n'en sais pas plus. J'avais jamais eu ce ressenti, j'avais jamais vu quelqu'un qui me ressemblait, à qui je ressemblais autant. Pour penser que c'est moi sur juste une seconde de vidéo, c'était un sentiment très très étonnant et très fort. On ne sait pas comment s'appelle cette fille, quel âge elle a, d'où elle vient, mis à part le fait qu'elle soit américaine. On fait des recherches évidemment avec plusieurs amis, alors on est plusieurs à explorer le web, toujours rien. On laisse les choses telles qu'elles sont avec plein de questions derrière. À la fois, on s'en amuse, ça devient une blague. On se dit, ah tiens, c'est quand même curieux. On s'amuse à prendre des photos pour voir si on se ressemble vraiment ou pas. En même temps, je commence à chercher. C'est quelque chose qui me travaille énormément. Donc, je mets tout en place pour essayer de trouver qui est cette personne. Et forcément, je m'imagine des scénarios. Je me dis que j'étais jamais tombée sur quelqu'un qui me ressemblait autant. Je me dis que ça peut être quelqu'un... Alors à ce moment-là, est-ce que c'est quelqu'un de ma famille biologique? Est-ce que c'est une cousine? Est-ce que c'est une petite cousine? Est-ce que c'est une demi-sœur? Je rentre à Paris, je montre les photomontages avec lesquels on s'est amusé à mes parents, qui me disent qu'en effet, ah bah tiens, c'est rigolo, ah oui, vous ressemblez vraiment beaucoup, elle a l'air un peu plus bronzée, on se pose pas plus de questions, et tant mieux, puisque d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de réponses à côté. Noël, les fêtes de fin d'année se passent très bien, je rentre à Londres. Et puis en février 2013, toujours avec ce très bon ami Kelsang, il me dit au détour d'une conversation dans le bus, en m'accompagnant à l'école, il me dit avoir revu cette jeune fille dans une bande-annonce sur YouTube. Et en effet, je revois la jeune fille qui, pourtant cette fois-ci, on se ressemblait beaucoup moins. Je me dis que là, je peux trouver probablement son nom ou plus d'informations. Je regarde sur IMDb, qui est le Allociné américain. Je vois en effet dans la liste de casting qu'il y a une Asian girl qui s'appelle Samantha Futterman. Donc je clique sur Samantha Futterman. Je vois qu'elle est née le 19 novembre 1987 et qu'elle est de nationalité américaine. Donc là, je me dis que je deviens complètement zinzin, que j'ai mal lu. Donc je rafraîchis la page pour être bien, bien sûr quand même que je ne perds pas complètement la boule. Et non, elle est toujours née le 19 novembre 1987. Je commence à tomber sous état de choc. Kelsang, on descend du bus, on voit, on en parle, sans en parler. Il me demande si ça va, je lui dis que ça va. On décide d'aller à l'école et je comprenais ce qui se passait, mais sans vraiment comprendre. On va dire que j'avais un scénario qui s'était vraiment rétréci. Sans vraiment poser les mots, je pense qu'on était tous les deux, on savait très bien... quelle était l'histoire, que j'avais probablement une sœur jumelle à ce moment-là. J'avais trouvé une sœur jumelle, ou en tout cas une jeune fille à qui je ressemblais comme deux gouttes d'eau, qui était née le même jour, qui était probablement d'origine coréenne et qui avait été probablement adoptée aux États-Unis. Donc la première chose que j'avais envie de faire, c'était d'en parler autour de moi, mais j'avais surtout envie d'en parler avec mes parents. J'ai eu maman en premier au téléphone. La première chose qu'elle me dit à ce moment-là est « Est-ce que tu penses que ça peut être ta sœur jumelle ?» Et le fait qu'elle me décrive la situation et ma propre interrogation avec des mots et qu'elle utilise ce mot « jumelle », le scénario était devenu réalité. Et évidemment, à côté, tout notre cercle d'amis commence à faire des recherches, à trouver plus de vidéos que moi, dont une vidéo de cette jeune fille qui dit « How it feels to be adopted. » Et là, tout s'arrête. Alors là, c'est fini, plus aucune perte de concentration totale. Je décide de rentrer à la maison. Et là, on commence à tout explorer. Son compte Twitter, Instagram, on commence à découvrir son profil Facebook qui était caché. Donc, on joue un petit peu pour essayer de la trouver, comment l'ajouter sur Facebook. On commence à voir toutes ces moindres pensées Twitter. On commence à découvrir des images d'un voyage qu'elle a fait en Corée il y a plus de 6 mois. On découvre qu'elle est née à Busan, qu'elle a découvert la ville de Busan et donc qu'elle n'est pas née à Séoul, exactement comme moi. À ce moment-là, je suis tellement excitée et j'ai tellement envie d'en découvrir plus sur cette jeune fille. La seule façon d'en découvrir plus, c'est de lui parler en direct. Mais est-ce que la personne en direct, maintenant, si je me mets à sa place, est-ce qu'elle aura envie de me parler? Est-ce qu'elle sait? Est-ce qu'elle est au courant? Est-ce que ça va l'intéresser? Est-ce qu'elle va avoir peur? Est-ce que ça va lui faire de la peine? Est-ce que ça va me faire de la peine? Que voilà, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Avec une personne qui me semble de plus en plus familière puisque je commence à découvrir des parties de sa personnalité grâce aux réseaux sociaux, des parties de sa vie. Voilà, on est le soir, on a dîné, quelques verres de vin après, on se dit que il faut vraiment qu'on lui envoie ce message. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, il faut qu'on prenne contact avec elle. Ça se trouve, on se trompe complètement, c'est un sosie, ça arrive, voilà. On réfléchit surtout au ton du message. Il faut que ce soit à la fois familier, sans être trop intrusif dès le départ. Compliqué quand même de trouver le bon ton. Donc j'alterne entre... Je lui raconte un peu ce qui vient de se passer, comment on a fait sa découverte. Je lui dis mon ressenti, que voilà, on se ressemble... La ressemblance physique est très étrange, qu'on se ressemble vraiment, que j'ai jamais ressenti ça avec personne d'autre. Je lui écris qu'on a vu ses vidéos pour essayer de l'amener à ce sujet que, voilà, j'ai été également adoptée, mais en France, qu'on est né exactement à la même date, la même année, et qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau. J'essaye de l'amener doucement au sujet, d'inclure un petit peu d'humour, en lui parlant du film « À nous quatre » avec Lindsay Lohan, un film de notre enfance où deux petites filles se retrouvent dans un camp d'été et elles se retrouvent face à face et il s'avère qu'elles sont en fait jumelles et que l'une est partie avec sa maman et l'autre avec son papa et elles se rencontrent à ce moment-là dans ce camp de vacances. Et je me dis qu'elle va arriver à la même conclusion que moi, que nous, avec nos amis à Londres. On a attendu plusieurs jours. L'attente était très longue. Je ne sais pas pourquoi. On s'imaginait tous qu'évidemment, elle allait répondre dans l'instant, qu'elle allait voir le message, qu'elle allait répondre que oui, on était jumelles, évidemment. Ça ne s'est absolument pas passé comme ça. On n'était pas amis sur Facebook. Facebook n'avait évidemment pas détecté de lien de parenté ou de ressemblance physique entre nous deux. Il s'en fiche, ça tombe directement dans sa boîte de spam. Donc, elle ne verra probablement jamais mon message. Et un ami décide de lui envoyer un tweet en lui disant de regarder si elle avait bien vérifié sa boîte spam sur Facebook. 3 jours après, Sam finit par voir ce message Twitter, à y répondre, en disant que non, elle n'a pas vu le message, mais elle a bien vu ma demande d'amis. À ce moment-là, je suis en atelier à l'école, on est en fin de journée, et je vois que cette jeune fille accepte ma demande d'amis sur Facebook. Évidemment, je lui renvoie 10 fois le message pour être sûre qu'elle le voit. Là, je vois les double ticks passer en bleu. Je me dis qu'elle a lu mon message. Maintenant, tout peut arriver. Et la première chose qu'elle m'envoie est une photo, et la photo est son dossier d'adoption. Ce qui est très direct, très 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 personnel quand même. On va évidemment lire cette première page du dossier d'adoption, et là on voit sur le dossier one sibling out of two. One out of two. Donc on se dit qu'on est deux enfants à ce moment-là, que c'était bien ça, qu'il y avait... Elle, c'est le premier enfant et que je suis le deuxième. Bon, après, il s'est avéré que c'était pas du tout ça dont le dossier parlait. C'était en fait juste pour dire que la maman biologique de Samantha était issue d'une famille de deux. Donc, on s'est complètement trompé sur le sujet. On a lu beaucoup trop vite. Mais pourtant, il y avait ce ressenti où elle vient de partager son dossier d'adoption avec moi. C'est évident qu'on est lié. Alors, dans son dossier d'adoption, était noté qu'elle avait découvert seulement 6 mois avant qu'on se parle qu'elle avait une grande sœur. Donc, je pense qu'elle a, les 6 derniers mois, elle a fait grandir cette idée intérieure qu'elle avait une sœur. Elle avait quelqu'un d'autre de sa famille biologique qui était là dans le monde, en effet. Elle se prépare, il est tôt le matin pour elle, elle se prépare à aller à la première de ce film dont j'avais vu la bande-annonce. Elle est sous état de choc. La seule chose qu'elle m'écrit en quelques lignes est « Dude, we are totally twins ». C'est sûr, on est complètement jumelles. Ce qui me semble la réponse la plus américaine qui puisse exister, la plus directe, la plus surprenante et en même temps la plus évidente aussi pour moi. Voilà, elle va à sa première, je rentre à la maison et au fur et à mesure, voilà, on va commencer à engager la conversation. On va commencer à aller à la rencontre l'une de l'autre, savoir quelles sont nos vies respectives. Elle a été adoptée à l'âge de 4 mois aux États-Unis, dans le New Jersey. Elle a grandi dans le New Jersey et elle a fait son lycée à New York. Elle a choisi de devenir actrice. Donc, elle fait toutes ses études à Boston. Et là, elle vient d'arriver à Los Angeles pour essayer d'être actrice. Elle est également serveuse dans un restaurant à Los Angeles, à Beverly Hills. Voilà, le cliché de l'actrice américaine. De mon côté, je lui raconte que je suis à Londres, étudiante en mode, que j'ai été adoptée à Paris. Je n'ai pas de frères et sœurs. Elle a 2 frères qui sont les 2 premiers enfants biologiques de ses parents. Elle a 1 demi-frère qui est plus grand. À la fois, j'ai l'impression qu'on a l'impression qu'on peut se connaître, qu'on est jumelles, mais en même temps, on ne se connaît pas. On ne se connaît ni d'Ève ni d'Adam. On apprend à se découvrir. Il y a un peu cette peur de se parler, de s'affronter. Alors, pas physiquement, mais avec Skype, la première fois, entendre une voix la première fois, ça, voilà, c'est intimidant. Donc, on commence par s'écrire, c'est déjà une bonne étape. Et je pense qu'à ce moment-là, on voulait se protéger inconsciemment aussi. Donc, on commence à se parler, à s'écrire. Et puis, on décide, une semaine après, de passer à l'étape supérieure et de se skyper. On organise une conversation Skype, qui n'est pas facile puisqu'elle est à Los Angeles avec le décalage horaire. Je fais mes études, elle travaille. On fixe rendez-vous, on se voit plus ou moins pixelisé, on commence à se parler. On a l'impression d'avoir la même intonation de voix. C'est drôle, c'est curieux. On se ressemble, mais on ne se ressemble pas. On ne sait pas trop de quel côté de l'écran regarder. On est pile poil côte à côte. Je découvre qu'elle a un accent, en effet, super américain. Elle me trouve super européenne, avec un mélange d'accent français et anglais. Voilà, on éclate de rire. Même à travers un écran, on commence à voir qu'on a des mimiques qui commence à être similaire. C'est indescriptible, c'est des mouvements que je pense savoir faire, que je pense faire, ou j'ai l'impression de le ressentir presque sur mon visage, puisque elle le fait devant moi. Comme des meilleurs amis qui se connaissent depuis très longtemps, ou des frères et sœurs, et savent exactement ce que signifie ce petit tic sur le visage, un petit rictus ou un silence. Et là, c'est exactement similaire avec Sam. Et pourtant, on se connaît depuis très peu de temps. À partir du moment où on s'est parlé sur Skype, on a établi ce contact, on commence à rentrer dans quelque chose, une relation qui commence à être presque sentimentale. Jusqu'à partir du moment où on voit la personne, on arrive à lire sur son visage, on voit ses expressions, pas comme dans un vulgaire message écrit, où on ne peut pas forcément ressentir la personnalité. Là, on est face à face avec nos 2 personnalités, on se raconte des millions de choses. Je ne me souviens absolument plus aujourd'hui ce qu'on s'est dit, mais je sais qu'on s'est parlé pendant des heures et que je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. On passe d'un sujet à un autre. On passe de « qu'est-ce qui fait beau à Los Angeles ?»« Ah, c'est drôle, qu'est-ce que tu fais ?»« Et là, qu'est-ce que tu fais ?»« Et là, c'est ton appartement ?»« Est-ce que tu as des colocs ?» On parle de tout et de rien. Comme, d'une certaine façon, comme avec des amis qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, où on ne se souvient pas exactement ce qu'on vient de se raconter. On a besoin d'un long moment pour se raconter. Et en même temps, on ne se souvient absolument pas de ce qu'on vient de se dire. Juste avant qu'on se Skype, elle me demande si ça me dérange qu'elle enregistre la conversation sur son ordinateur, puisqu'elle aimerait beaucoup le partager avec ses parents également. Ça lui vient très naturellement avec son entourage de se dire « on va faire un documentaire, il faut qu'on documente tout ce qui est en train de se passer, on a besoin de garder une trace vidéo de ce qui est en train de se passer ». Au fil des semaines, on commence à vraiment faire de plus en plus connaissance. Je pense qu'on s'aime déjà très très fort. Je pense qu'on est persuadé qu'on est jumelles. Et voilà, on continue. Sam décide de se lancer dans l'aventure du documentaire. Elle me demande si ça me dérange. Et je me dis oui, pourquoi pas, évidemment. Et puis, c'est une histoire qui est incroyable. Donc je me dis, on va commencer à construire des souvenirs ensemble. Et je pense que j'avais une confiance instantanée envers Sam. Avec certains de ses amis qui sont producteurs, d'autres caméramans, elle se dit, voilà, on va essayer de financer le projet via une plateforme participative, via Kickstarter, et évidemment filmer notre première rencontre physique en personne. On commence à récolter les fonds nécessaires, on la planifie, elle aura lieu exactement quelques jours avant mon diplôme. On était persuadés qu'on était jumelles, mais il persistait un petit doute, on avait besoin de cette preuve scientifique. Il nous fallait le test ADN. On est contacté par le professeur Segal, Nancy Segal, qui est chercheuse à l'Université de Californie, l'Université de Fullerton. Elle a toujours étudié les jumeaux. Un de ses sujets de recherche est les jumeaux séparés à la naissance. Sur ces questionnements, le docteur Segal, qui avait déjà une petite idée en tête et fait d'autres recherches, avait posé une question très spécifique à Sam, de m'écrire et me demander quelle était la nourriture ou l'aliment que je détestais le plus ou que j'adorais le plus. Et je déteste, j'ai horreur des carottes cuites. Et Sam a horreur des carottes cuites. Il y a certains facteurs génétiques, comme le goût, qui peuvent rentrer en jeu. Au fur et à mesure des échanges, des photos, on s'apercevait qu'on était sensible aux mêmes couleurs, au niveau de l'habillement. Alors, on avait un style un peu plus, on va dire, français, et Sam un style un peu plus américain. Mais on découvrait des choses en permanence. Et je pense qu'on était très focalisés au départ sur nos ressemblances. On voulait prouver qu'on était identiques. Et elle nous propose de nous aiguiller sur le test ADN, pour bien vérifier que nous sommes des sœurs jumelles, mais pas simplement des sosies. On le réalise à distance, avec une espèce d'éponge à gratter sur le fond de sa joue, pour récupérer de la salive, des cellules, qui seront ensuite analysées, donc renvoyées dans un laboratoire, et puis analysées, et on verra notre ADN décortiqué. On savait que ça allait mettre un peu de temps, et on se dit qu'on aimerait bien découvrir les résultats du test ensemble, quand on est ensemble physiquement, quand on s'est déjà retrouvé physiquement. Sam prend ses affaires, elle vient avec ses amis. Mes parents seront présents, ses parents seront présents, ses deux frères partent en avion. On va tous se retrouver à Londres en juin. Je vais chercher mes parents à l'Eurostar, à King's Cross. Je les récupère et on se dirige là-bas. Et on arrive devant le Airbnb. Je suis avec maman et une très bonne amie. Sam est là-bas avec ses amis, avec mes amis. Et voilà, il va falloir qu'on se rencontre. Et là, je sais qu'elle est là, en haut. Elle sait que je suis arrivée et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne sait pas si l'appartement va exploser, si ça ne va absolument rien faire. Enfin, on ne sait pas, mais il y a une espèce d'excitation, évidemment. On se lance. On entrouvre la porte. Là, je suis hyper gênée, donc je décide de lancer ma copine avant moi. Ils la regardent tous hyper bizarrement. Elle est asiatique aussi. On se ressemble pas du tout, voilà. Ça détend un petit peu l'atmosphère. Je fais un pas dans l'appartement, mais je veux pas approcher plus. Je la vois, elle est là. Elle est assise sur un éléphant. Un gros éléphant doré, elle est assise sur un éléphant. C'est pas du tout l'endroit que j'aurais choisi pour attendre ma sœur jumelle, mais ok. Je sais pas à quoi je m'attendais, je m'imaginais à me lancer à courir vers elle, à pleurer, à rire. Il ne se passe absolument rien. Moi, je suis complètement bloquée. Je suis figée à l'entrée. J'ai fait un pas dans l'appartement, mais je n'en ferai pas un de plus. Je m'approche progressivement. On est comme des aimants qui se repoussent, mais qui s'attirent. On sent qu'il y a une force. Je décide d'établir contact avec cette personne qui apparemment est aussi gênée que moi. Je la touche avec mon doigt et elle explose de rire. Voilà, on explose de rire. Elle me fait exploser de rire parce que je ne sais pas comment me comporter. Elle non plus, donc ça nous fait encore plus rire. En plus, on a le même rire, alors ça nous fait encore plus rire. Tout le monde rigole, tout le monde est hyper mal à l'aise de la situation et en même temps super excité de la situation. On a mis du temps quand même à ce que la gêne se dissipe. Il faut qu'on apprenne à être dans le même environnement physique. On a besoin d'être dans la même dimension. On décide d'aller déjeuner ensemble. Là, on commence à s'habituer. On passe devant des vitres dans la rue. On passe devant des miroirs. On commence à se rendre compte qu'on est côte à côte, qu'on se ressemble, mais qu'on n'est pas la même personne, qu'on est bien deux. Et ça commence à venir. Au fur et à mesure de l'après-midi, on déjeune. On rentre dans le Airbnb. Et là, on ne sait pas pourquoi. Quand je vis une émotion forte, j'ai besoin de faire une sieste. J'ai besoin de dormir. Elle aussi, d'un coup, on a besoin d'aller faire une sieste. Et on décide de dormir dans le même lit. Et à partir de ce moment-là, ça va mieux. Je pense qu'il y a déjà... on s'est habitué l'une à l'autre. On se dit que c'est réel, que c'est vraiment en train d'arriver. On part à la découverte de Londres avec nos familles, nos amis. On rencontre ses parents, elle rencontre mes parents. Et on attendait quand même les résultats du test ADN aussi. Et c'était un moment qu'on allait vivre tous ensemble. On attend l'appel du docteur Segal. Elle nous dit « Regardez-vous et tournez-vous toutes les deux vers votre sœur jumelle. » Nous sommes sœurs jumelles, c'est prouvé scientifiquement. Et il n'y a plus de doute. Sur ces 16 marqueurs, le test a prouvé que nous avions les 16 mêmes marqueurs. C'est le rêve d'un enfant adopté, d'une certaine façon. De se dire qu'il y a quelqu'un d'autre, de se rattacher à un être physique, de savoir d'où on vient, de se projeter et pouvoir imaginer qu'on a une famille biologique. Voilà, c'est toujours important de savoir d'où on vient. Juste avant que Samantha parte de Londres, on décide de se revoir rapidement à Los Angeles. Et à la fin de mon diplôme et jusqu'au résultat, j'avais un petit moment et donc je décide de prendre des billets et d'aller passer 2 semaines avec elle à Los Angeles pour découvrir sa vie là-bas, son environnement, ses amis et en profiter également pour faire quelques tests cognitifs avec le docteur Segal un peu plus poussé. Assez proche de tests de QI finalement, des tests aussi de motricité. C'est toujours très intéressant d'un point de vue scientifique de voir en effet comment deux personnes avec le même patrimoine génétique peuvent être hyper similaires ou complètement différentes en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. La question de qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est acquis. On est très très similaires. C'était assez troublant de voir justement la part d'inné qui existe chez nous. On va évidemment avoir quelques différences. Par exemple, Sam avait une mémoire nettement meilleure que la mienne. Elle est actrice, alors forcément, elle retient mieux les choses. J'ai une meilleure perception dans l'espace, justement due au modélisme, au dessin, etc. On a des personnalités assez similaires, malgré mon niveau d'anxiété très, très poussé. Et pour Sam, un côté extraverti, bien plus développée. C'est peut-être à ce moment-là qu'on commence à revoir nos différences, qu'elles nous apparaissent claires. Dans notre processus d'apprendre à se connaître, alors forcément, on se rencontre physiquement. Ensuite, on commence à aller plutôt en arrière pour essayer de comprendre nos vies passées, qui on est vraiment. Et ça nous ramène forcément à la Corée et notre histoire, là où on est né, et notre famille biologique. Et ce besoin d'avoir des réponses, de trouver des réponses pourquoi on a été séparés à la naissance. Et c'est important pour nous de retourner en Corée du Sud ensemble. Et à ce moment-là, a lieu un rassemblement de Coréens adoptés qui a lieu tous les 3 ans. C'est un rassemblement mondial. Et à Séoul, c'est vrai que c'était vraiment intéressant de voir tous ces Coréens adoptés avec chacun leur culture. Voilà, de partager nos différentes expériences, de partager les visions de l'adoption dans chaque pays. C'était beaucoup d'émotions que je comprenais pas forcément non plus. On tournait le documentaire en même temps Je pense que l'équipe voulait avoir aussi plus d'informations, des informations plus rapides que mes sentiments à ce moment. J'arrivais pas encore à faire la part des choses, je savais pas ce que je ressentais. J'allais rencontrer pour la première fois ma nourrice, mais je savais pas qui c'était. On était retournés au Holt Institute qui s'occupait des adoptions à l'époque. Et j'étais un petit peu perdue, je pense, là-bas. Et on continue de se poser des questions, de vouloir savoir pourquoi on a été séparés, si des personnes savent des choses qui ne peuvent pas nous communiquer. Et comme nous avons été adoptés à travers deux agences différentes, une qui s'occupait que des États-Unis, l'autre que des autres pays. Voilà, on arrive, on va visiter les deux organismes, ils nous disent des choses différentes. La raison de notre adoption ne concorde pas. Dans mon cas, c'était deux jeunes étudiants qui n'étaient pas mariés et qui ne pouvaient pas avoir un enfant. Et pour Sam, c'était un couple qui avait déjà un enfant et qui ne pouvait pas assumer financièrement un second enfant. Et qui avait préféré donc la mettre en adoption pour qu'elle ait plus de chance par la suite. On a été adoptés avec un mois d'écart, des zones d'ombre sur le temps passé à Busan, à Séoul, deux nourrices complètement différentes, absolument pas au courant de l'histoire, et juste un point commun, une même maternité avec une mère biologique et un numéro de sécurité sociale qui concorde entre les deux dossiers. Mais c'est tout. Mais qui sont bien arrivés à la conclusion qu'on a de toute façon les mêmes parents biologiques, qu'ils ont retrouvé ces personnes. Elle nie avoir eu de jumelles, elle ne reconnaît pas du tout l'histoire, elle ne l'accepte pas. Peut-être qu'elle a refondé une famille, cette famille n'est probablement pas au courant. Je peux comprendre ne pas avoir envie à ce moment-là d'avoir à se justifier tout simplement, pourquoi elle a fait ces choix-là à ce moment-là. De blesser d'autres personnes qui n'en avaient absolument pas conscience. Et le seul moyen de rentrer en contact, c'était d'écrire une lettre, de donner des photos, de raconter quelle était notre vie aujourd'hui, ce qui venait de se passer, de le donner aux associations coréennes qui se sont occupées de nos adoptions. Ils ont fait des copies dans nos deux dossiers. Et si un jour notre famille biologique souhaite retrouver ces informations, ces lettres, ces photos, ils pourront venir les chercher à ce moment-là, si le cœur leur en dit. Donc, ces choix sont les siens. Nous, c'est vrai qu'on aurait aimé pouvoir avoir plus de réponses, mais le fait de se retrouver nous suffit largement. En rentrant de Corée, le documentaire est en train d'être monté. Et là, on prépare le dossier pour le présenter à différents festivals, comme le festival de Sundance, South by Southwest... au Texas, et le documentaire est pris pour être présenté à South by Southwest. C'est Netflix qui décide de prendre le projet et de le diffuser sur ses propres chaînes. C'était assez thérapeutique d'une certaine façon. On a été amené à se poser des questions bien plus rapidement que si on avait pris le temps d'apprendre à se connaître, de se voir 6 mois plus tard, 1 an plus tard, et de partager d'autres moments. C'est très étrange de découvrir sa sœur jumelle à 25 ans quand on pense se connaître. On pense être un adulte, se connaître par cœur. Et en fait, quand on se retrouve face à son sosie, sa sœur jumelle, qui réagit exactement pareil, on se rend compte qu'on... De plein de choses, on se rend compte d'énormément de choses sur soi, de ses mimiques, de son attitude, de comment on est perçu à côté des autres. C'est très étrange de se voir à côté de ses amis, ce qui n'arrive pas vraiment, par exemple. Également, le fait d'avoir été adoptée et d'avoir été élevée fille unique, il y a toujours cette peur, le jour où nos parents disparaissent, de se retrouver seule aussi et abandonnée. Et avec Sam, je sais qu'elle sera là, qu'une partie de sa famille également sera là, que ses enfants seront là un jour, que nos enfants pourront vivre des choses incroyables. Il y a une espèce d'unicité, une force dans la famille qu'on s'est recréée. Je pense que j'ai retrouvé cette sœur dont je rêvais ou cette personne qui était constamment avec moi quand j'étais petite, quand j'avais mon ami imaginaire ou ma sœur imaginaire.
Cet épisode était signé Judith Chétrit. La musique a été composée par Maxime Daoud. Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Louis Média a assuré la production pour Slate.fr. Si vous voulez en savoir davantage sur l'histoire d'Anaïs et sa sœur, vous pouvez regarder Twinsters sur Netflix, qui raconte le point de vue de Samantha. Et pour nous envoyer de nouvelles histoires, écrivez à podcast@slate.fr, suivez les réseaux sociaux de Slate et suivez-moi sur @chapudlo ou @chapudlovski sur Instagram et sur Twitter. À très vite.
Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.